Alors, on va lire ensemble le livre des Actes, Actes 20, versets 1 à 12. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alors, eh bien, vous vous souvenez, la semaine dernière, c'était la ville d'Éphèse, avec la Diane d'Éphèse, un grand tumulte. Et Paul quitte cette fois cette ville tumultueuse. Il continue son voyage missionnaire pour aller jusqu'en Macédoine. Après, il passe en Grèce, où il va rester 3 mois. Puis après, il a l'intention d'aller en Syrie, mais finalement, les Juifs l'empêchent. Il est écrit qu'ils lui dressèrent des embûches. Et on voit que les pires ennemis de Paul, ce n'étaient pas les païens, c'était ses frères, ses propres frères, les Juifs. Mais on voit aussi que Paul n'est pas complètement seul face à cette opposition. Au verset 4, on lit qu'une poignée d'hommes solides l'accompagnaient. Donc, il avait 7 hommes fidèles qui étaient à ses côtés. Et lorsque Dieu permet que des personnes se dressent contre nous, eh bien souvent, il permet en même temps que des personnes nous soutiennent. Il y a souvent les deux, le Seigneur agit de cette manière. Il abandonne jamais son enfant. Quand on regarde par exemple l'histoire du roi David, il va se retrouver face à Saül. Mais au moment où il est face à ce roi, le roi Saül, qui était très dur vis-à-vis de lui, qui est hargneux, finalement il voulait le tuer, eh bien, Dieu suscite en même temps son fils Jonathan, fils de Saül, qui va devenir son appui, son soutien, sa joie et un encouragement. Et Jonathan va être d'un soutien, on peut dire, indéfectible. Il sera toujours là. Et Dieu ne nous laisse pas seuls dans nos épreuves. Il est aussi touchant de voir que c'est quand Saül va disparaître que Jonathan disparaît. Les deux vont partir pratiquement en même temps. Peut-être parce que, eh bien, ça y est. L'épreuve était passée maintenant, eh bien, on avançait, une page se tournait. Mais ce n'est pas ce sujet qu'on va voir ce matin. Au premier verset, on lit que Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Et puis au deuxième verset, on lit « Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations ». Et puis un peu plus loin, on le retrouve à Troas, de nouveau, où là, il va prendre le temps, de nouveau, d'enseigner, d'apporter des exhortations dans une chambre haute. Et derrière ce travail incessant d'exhortation et d'enseignement, on peut voir Dieu lui-même. C'est Dieu qui veut prendre soin de tous ses chrétiens, de toute son Église. C'est Jésus-Christ qui veut prendre soin de son épouse. Et il en prend soin en la lavant par l'eau de la parole. Il en prend soin en la nourrissant. Chaque matin, il prend soin de nous quand on ouvre notre Bible. Il veut prendre soin de nous quand on entend, on écoute des messages, la parole de Dieu. Et on peut dire qu'on reçoit de nombreuses exhortations. C'est une vérité. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ces nombreuses exhortations? Et c'est la question qui va nous intéresser ce matin. Quelle attention nous portons à tous ces encouragements, toute cette parole que Dieu nous donne? Regardez verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc il s'agissait d'un dimanche, jour de la résurrection du Seigneur, premier jour de la semaine. Ils étaient tous ensemble réunis dans cette chambre haute. Et Paul enseigne. Il est en train de parler, il est en train de développer, d'exposer les Écritures. Il expose la pensée de Dieu. Et les disciples devaient sûrement avoir plein de questions. On le voit à cause d'un terme, c'est le verbe « s'entretenir ». En fait, c'est un verbe grec qui va nous dire quelque chose, « dialegomai », dialogue, hein, « dialegomai », ça fait penser à un dialogue. Donc certainement, il y avait un dialogue là. Ils étaient en train de lui poser des questions et Paul répondait, et ça durait. Il faut comprendre aussi qu'on est au tout début du commencement de l'Église. Ça veut dire qu'il y avait plein de jeunes chrétiens là. Alors, ils étaient comme Tristan à recevoir et à vouloir être nourris. Et donc, ils avaient plein de questions. Et ils voulaient profiter de l'apôtre Paul, qui était là et qui pouvait les nourrir, leur faire du bien. Aussi, il faut se remettre dans le contexte. Ils n'avaient pas encore tout le Nouveau Testament. Ils avaient juste peut-être un évangile qui circulait. C'était le commencement des lettres que Paul écrivait. Donc, ils n'avaient pas grand-chose. En ce qui concerne le Nouveau Testament, bien sûr, ils avaient l'Ancien Testament. Et puis Paul, on voit, il est intarissable dans son développement. Il veut leur donner un maximum de compréhension pour qu'ils perçoivent, ils comprennent bien ce qui s'est passé le jour où ils ont cru en Jésus-Christ et ce que Dieu attend d'eux maintenant. Qu'ils puissent avoir toutes les armes nécessaires pour pouvoir tenir bon quand après, eh bien, il allait partir. Si bien qu'il finit ce dimanche-là à minuit. Enfin, il arrive en tout cas à minuit. Verset 8, nous lisons, « Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. » Et en lisant ce verset, je me suis demandé, mais pourquoi Luc nous dit ça? Pourquoi juge utile de nous parler de lampes? Alors ça semble un détail anodin, mais pourquoi il nous parle de ces lampes? Alors, on peut essayer de trouver une explication rationnelle avec le contexte. Certains ont dit, par exemple, que la fumée des lampes à huile a peut-être provoqué l'évanouissement et l'assoupissement de ce jeune homme Titus, qui était un peu plus loin, on voit sur la fenêtre. Donc, ce qui expliquerait pourquoi il cite en tout cas ces lampes. Maintenant, je ne crois pas forcément que c'est ça. Sinon, eh bien, il aurait dit « et la fumée des lampes peut-être provoquée » ou je ne sais pas. D'autres ont dit, peut-être que les chrétiens voulaient être bien visibles, vous savez, parce qu'on les accusait des pires choses. Et donc, ça permettait de voir même de l'extérieur la lumière, on n'était pas en train de se cacher, etc. Mais bon, ça n'a l'air pas non plus très probant. S'il y avait beaucoup de lampes, c'est que Luc est en train de nous dire, il y avait beaucoup de lumière dans cette pièce. C'était une pièce remplie, inondée de lumière. Et bien sûr, on peut y voir quelque chose de spirituel dans cette précision. D'abord, il y avait beaucoup de lumière de par le fait qu'il y avait beaucoup de chrétiens présents dans cette pièce. Et Dieu nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes ces lumières et vous devez briller dans ce monde. Vous êtes la lumière. Des chrétiens qui étaient éveillés. Il y avait plein de chrétiens éveillés là, en train de dialoguer, en train de vivre en Christ. Mais bien plus, cette pièce était inondée de lumière, c'est aussi, surtout, parce qu'il y avait l'enseignement des Écritures. La parole de Dieu qui était exposée. Alors, il y avait de la lumière, mais en abondance, dans cette pièce. Il y avait l'apôtre Paul, qui avait été choisi pour apporter la révélation de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc, il était on peut dire l'outil ici choisi par Dieu pour leur donner l'enseignement. Et Paul était en train de dispenser toute cette connaissance du Seigneur. Alors on peut dire qu'il y avait beaucoup de lumière dans cette pièce. Ils n'étaient pas dans un lieu sombre, ils n'étaient pas dans les ténèbres, mais ils étaient vraiment éclairés par la lumière de la parole. Et c'est là que Dieu introduit, puisqu'on croit à l'inspiration, un jeune homme dans la scène. Verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Alors on imagine ce jeune homme qui est adossé au mur, vous savez, comme on peut être assis sur un rebord de fenêtre, et il est en train d'écouter Paul. Voilà, il est tourné vers l'intérieur de la pièce, en train de regarder. Et en même temps, il jette un coup d'œil à l'extérieur aussi. Hein, quand on est sur un rebord de fenêtre, on est aussi tenté d'aller regarder un petit peu à l'extérieur ce qui se passe. Et ce jeune homme, finalement, il peut représenter chacun d'entre nous. C'est un jeune homme qui a pris la peine de monter jusqu'au troisième étage. Hein. D'ailleurs, je m'étonnais que c'était incroyable, hein, une chambre haute au troisième étage déjà. Donc, il a pris la peine de monter là-haut, d'être avec les chrétiens. Probablement, on pense qu'il devait être aussi chrétien. Mais il est assis sur ce rebord de fenêtre. Et on peut dire qu'il représente quelqu'un de partagé. D'un côté et de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il est tourné, des fois, vers cette abondance de lumière. Hein. Et puis, d'autres fois, il est tourné, cette fois, vers les ténèbres de la nuit, vers l'extérieur. Et j'aimerais qu'on médite sur ce jeune homme. Au travers de lui, Dieu nous parle du risque qu'il y a à être assis entre deux chaises. Il y a une partie de nous à l'intérieur qui aime la vérité. Sinon, on n'aurait pas fait l'effort de monter jusqu'au troisième étage et d'être avec les chrétiens et de monter dans cette chambre haute. Et en même temps, il y a une autre partie qui est tournée vers l'extérieur, vers les ténèbres. Et on peut dire que c'est une position qui est difficile et qui est délicate, dangereuse. Que l'on soit enfant de Dieu ou que l'on ne soit pas enfant de Dieu, c'est une position dangereuse. Et vous savez, quand quelqu'un s'assit comme ça sur le bord d'une fenêtre, toujours il pense qu'il contrôle. Sinon, il ne s'assiedrait pas là. Hein. Quelqu'un qui a peur de tomber, il ne s'assoit pas. Mais celui qui s'assoit, il est en équilibre et c'est bon, je contrôle. Et on peut avoir la même attitude finalement en menant un peu une double vie. Une vie où on est assis comme ça entre deux chaises. D'un côté, il y a le Seigneur, il y a sa parole, il y a sa lumière, sa vérité, il y a son amour, il y a son Église, il y a la communion, il y a toutes ces choses qui nourrissent, qui font du bien à l'âme, qui nous réchauffent, qui nous attirent, qui nous élèvent vers les choses d'en haut. Et puis de l'autre côté, il y a le monde, ses attraits, tout ce qui nous attire et nous détourne finalement des voies de Dieu, tout ce qu'on pourrait appeler les plaisirs trompeurs. C'est voilà, une bonne liaison, plaisir trompeur. Alors bien sûr, c'est la nuit, c'est les ténèbres de ce côté, mais il y a quand même vous savez, dans la nuit, il y a plein de lumières artificielles. Donc c'est quand même attirant. C'est attirant. Quand on est venu à une réunion avec les enfants quand ils étaient en vacances, ils étaient tout émerveillés de sortir la nuit. Ils n'ont pas l'habitude de sortir la nuit. Et de voir toutes ces lumières et tout ça. Oh, c'est beau! Et c'est ça, hein, des lumières artificielles qui nous attirent, des plaisirs, mais qui sont trompeurs. La parole de Dieu parle des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est ça, ces plaisirs. Hein. Ça semble bien retenir l'eau, rafraîchir, mais non, en fait, ça ne désaltère pas vraiment. Et comme Eutychus, on est parfois comme ça en équilibre. Et on pourrait appeler ça avoir un cœur qui est partagé. Et on a des exemples dans la Bible de cœurs qui sont partagés. Notamment, il y a cet épisode avec le prophète Élie et les prophètes de Baal. Vous vous souvenez de ça? Donc Israël, à l'époque, avait un mauvais roi, c'était le roi Akab, qui avait une femme encore plus mauvaise que lui, Jézabel, un nom que l'on retient, une femme corrompue. Et Jézabel avait fait la promotion du culte de Baal, un faux dieu. Et donc, il y avait ces 400 prophètes de Baal. Et Israël, eh bien, était un peu, voilà, un peu, ils ne savaient pas trop vers qui se tourner. Alors, eh bien, ils regardaient ces prophètes de Baal qui offraient les sacrifices sur les hauts lieux. Regardez, on peut prendre avec moi, gardez votre main dans Actes, si vous voulez prendre 1 Roi 18 et verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, alors bien allez après lui, si vous le croyez. » Le peuple ne répondit à rien. Alors, je suis allé voir un petit peu d'autres traductions de ce verset, de ce passage. Et par exemple, je lisais, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Quand cesserez-vous de sautiller d'un pied à l'autre ?» Comme ça, un coup à droite, un coup à gauche. Ou bien encore, « Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés ?» Combien de temps ? Et finalement, c'est ça le dilemme. C'est notre cœur qui est là, en train d'hésiter entre la lumière et les ténèbres. Et la réponse du peuple, elle est très significative. Quelle est la réponse ? Silence. Le peuple ne répondit à rien. Autrement dit, ils n'étaient pas tranchés. Ils étaient incapables de prendre une vraie décision qui allait les impliquer d'une manière durable. Non, ils restaient là assis, à ne pas savoir trop. Un autre exemple d'un cœur partagé, ça se trouve dans, même on peut dire on la retrouve dans l'histoire des rois d'une manière générale. Israël, donc après les règnes de David, de Salomon, va avoir plein de rois, même avec un royaume divisé, donc parfois, enfin, souvent deux rois, et des rois qui étaient parfois mauvais, des rois qui étaient parfois bons, des rois qui même étaient consacrés d'une certaine manière. Hein. Ils étaient consacrés. Mais ce qui est troublant dans l'histoire des rois, c'est que même si on voit qu'ils avaient l'approbation de Dieu, tout n'était pas forcément toujours parfait. Pourtant, certains des rois étaient vraiment très bons. Et la Bible souligne, ils aimaient vraiment l'Éternel. Mais, et il y a un mais. Regardez avec moi un petit peu avant. 1 Roi 15, et on va lire les versets 9 à 14. 1 Roi 15, verset 9. « La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maka, fils d'Abisalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Il ôta du pays les prostituées. Et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même, il enleva la dignité de reine à Maka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, il la brûla au torrent du Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa ait été en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. » Et c'est clair que Asa, il aimait Dieu. Au fond de lui, il voulait faire ce qui était bien. On lit, il faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, même comme David, son père. Il fut même capable de choisir entre sa mère et Dieu. C'est pas facile ça, hein ? De faire un choix entre son parent et Dieu. Aimer Dieu plus que son parent, ça ne veut pas dire rejeter son parent, hein ? Et voilà, ne plus en prendre soin, par exemple, hein ? Mais l'idée de « c'est Dieu qui passe en premier ». C'est à lui d'abord que je me soumets. C'est lui qui est mon Dieu, c'est lui qui est mon roi. Asa fit cela. Mais ce dernier verset contient aussi un « mais ». « Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa ait été en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. » Et il peut y avoir un « mais » et un quoique dans notre vie. Il y a les deux. C'est le cœur qui est partagé. On est quand même monté au troisième étage, on est dans la chambre haute, mais assis sur le rebord de la fenêtre. Et on se laisse la possibilité de se tourner vers la nuit, vers l'extérieur. Et Dieu nous demande de faire un choix. Peut-être que nous sommes comme cela ce matin, partagés dans nos cœurs. Il y a d'un côté ce que vous lisez, ce que vous entendez de la Bible, la lumière qui vient éclairer vos ténèbres. Et au fond de votre cœur, vous savez, c'est ça ce qui est bon, c'est ça la sagesse, c'est ça la bonne voie, c'est ça la vérité. On le sait intérieurement. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on connaît, le monde. On le connaît, on vit dedans. On grandit dedans, on a grandi ou on grandit dedans. Et ça, eh bien, ça demeure attrayant. En plus, on le voit avec nos yeux, on peut même le toucher avec nos mains, le monde. Donc forcément, ça nous semble même parfois plus proche. Un monde qui nous parle extérieurement, même si on sait bien que ça ne nous nourrit pas intérieurement. Et il faut faire un choix. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et je rajoute en même temps. Et on aimerait bien qu'il y ait une solution intermédiaire. Tout avoir, mais sans rien lâcher. Ce n'est pas possible. Et par l'histoire de Titus, Dieu nous montre qu'il y a un risque à boiter des deux côtés. Un risque à demeurer entre deux chaises sur le bord de la fenêtre. Le risque, c'est de faire une chute qui est fatale avec des conséquences qui sont regrettables. Et si nous sommes dans la chambre haute, cette chambre qui est pleine de lumière, on n'y est pas monté pour redescendre subitement d'un coup comme ça, bam, par la fenêtre. Dieu a des choses bien meilleures pour nous. Il veut vraiment nous faire du bien. Et on voit qu'il est possible de tomber dans un sommeil spirituel qui va entraîner notre chute. Parce que cette position, elle est ambiguë, elle est dangereuse. Et finalement, il ne faut pas grand-chose pour tomber dans le sommeil. Eutychus, ce n'est pas jeté par la fenêtre. Hein. Non, non. Il y est allé de son plein gré. Il a choisi, il est venu, il s'est assis sur le bord, volontairement. Je contrôle. C'est bon, tout va bien. Mais Eutychus n'a pas contrôlé quand il s'est endormi, finalement, quand il est tombé dans le sommeil. Et il est dit, il s'endormit profondément. Ce n'était pas un sommeil léger, non. Pff, voilà. Il a écrasé, hein, comme on dit. Vraiment, on remarque que jamais personne ne fait exprès de s'endormir au volant. Hein? On ne le fait pas exprès. Personne n'a envie de s'endormir au volant. Et pourtant, eh bien, on voit que ça existe. Hein? Il y a pas mal d'accidents de personnes comme ça qui s'endorment au volant. Ils ne le voulaient pas, mais ils sont gagnés par le sommeil. Au début, peut-être, bon, on sent un peu qu'on s'assoupit, hein? Mais si on ne fait pas quelque chose, ben, on finit par tomber. Et quand on s'endort, ben, on ne le sait pas. Ça y est, on dort. On dort. À un moment, on bascule dans le sommeil profond sans s'en rendre compte. Et c'est la même chose pour le sommeil spirituel. On se dit toujours, oh, ben, ça va bien, ça va, je garde le contrôle. Mais à un moment, on ne voit pas le sommeil venir et paf, ça y est, on dort là. On dort vraiment. Et on n'arrive plus à se réveiller. Et c'est la chute. Ça fait penser à Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson, un homme qui contrôlait bien sa vie. Il l'avait en main. Il était fort, il ne craignait personne. Sûr de lui, convaincu que de toute façon, Dieu est avec moi. Mais de petite désobéissance en petite désobéissance, à un moment, Samson s'est réveillé de son sommeil. Et là, il avait perdu sa force. Dieu n'était plus là. Samson s'est endormi profondément dans les bras de Dalila. Et lorsque les Philistins le réveillèrent, il est dit, enfin c'est lui qui dit ça, enfin il se dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Et la Bible ajoute, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et résultat, eh bien, les Philistins lui ont crevé les yeux. Ça veut dire que il a perdu la vue, il ne voyait plus la lumière. Il avait perdu la lumière. Et nous aussi, il faut considérer cette prise de risque qui est inutile. Alors Dieu pardonne notre péché, c'est vrai, mais ne répare pas toujours les erreurs que nous avons commises. Parfois, il y a des conséquences qui sont irréversibles. Samson est revenu à Dieu, mais il n'a pas retrouvé la vue. Il est resté aveugle. Et il est mort immédiatement. Et il y a des choix qui entraînent des conséquences. Eutychus est tombé troisième étage. Et ce n'est pas rien, hein, troisième étage. Même si on se dit que les plafonds ne faisaient pas 3,50 m comme ici, il était au moins, je sais pas, 5 mètres, au moins minimum, hein, de hauteur. Alors tomber, ça fait mal, hein, ça fait mal. Surtout quand on n'est pas préparé. Et il a dû se réveiller, vous savez quand ? Dans la chute. Ça fait drôle, hein ? Il y a le cœur qui se soulève, là. Je viens de lire ça. Une jeune femme est tombée par une fenêtre à Menton. Vous avez peut-être entendu parler, non ? Pourquoi ? Parce qu'elle était avec son portable et elle essayait de capter le réseau Wi-Fi. Et puis elle regardait, alors vous savez, si vous avez un portable, vous savez, une barre, deux barres, et la troisième barre, c'était en bas. Heureusement, c'était le premier étage. Donc, elle s'en est sortie, je pense, qu'avec quelque chose de cassé, quelques fractures. Mais vous savez, des fois, il y a des chutes qui sont bien plus graves que celle-là. Il y a une autre chute dramatique, hein, on a lu dans les informations, c'est Oscar Pistorius. Hein. Ben, vous savez, cet athlète-là, qui n'a plus les tibias, para-olympique, là, qui était en pleine ascension. Il était en train de monter, de gagner, même de gagner sur des valides. Une course. Hein. Et puis, pouf, inculpé pour le meurtre de sa compagne. Là, d'un seul coup, il s'est réveillé dans la chute. Dans la chute. Et nous aussi, en tant que chrétiens, on peut aussi d'un seul coup faire une chute et puis c'est dans la chute qu'on se réveille. Et dans la chute, ben c'est trop tard. Ça y est, on ne peut pas se rattraper. Hein. On tombe, on tombe. Luc explique au sujet d'Eutychus, quand voulut le relever, il était mort. On peut imaginer les traumatismes multiples qu'il devait avoir, blessures, fractures, et il était mort. Et c'est certain que s'endormir et faire une chute dans le monde, dans les ténèbres, ça conduit à la mort. Quand on ne se soucie pas de la lumière et puis on tombe, eh bien on meurt. On meurt d'abord physiquement. Ça c'est certain, la parole le dit. Elle dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui commet un péché, et il en fait plus d'un, il va mourir. Ça veut dire que son âme va être séparée de son corps. Il va entrer dans l'éternité, dans l'au-delà. Mais la mort, hein, c'est aussi la séparation, et ça peut être une séparation spirituelle, c'est-à-dire une séparation qui est éternelle d'avec Dieu. C'est ça la mort aussi. Et on peut tomber comme ça dans les ténèbres, hein, être séparé de Dieu et connaître les ténèbres pour toujours. Si on n'a pas fait le choix de Jésus-Christ, de donner son cœur à Jésus-Christ, de se repentir de ses péchés, alors eh bien, on va basculer le jour où on partira. Mais on peut penser que Eutychus était chrétien. Et dans ce sens, il y a aussi une chute qui est une mort. Mais c'est une mort dans le sens de la perte de la communion avec le Seigneur. Le chrétien peut s'endormir et tomber bien bas. Il perd sa vie avec le Seigneur, sa communion. Il perd la bonne voie. Et il perd finalement les bonnes choses que Dieu veut pour lui. Ça ne veut pas dire que Dieu n'en a pas d'autres, mais il perd ce que Dieu voulait pour lui. Alors peut-être que vous êtes déjà tombé ce matin. Peut-être que vous êtes déjà en bas. Regardez versets 10 et 12. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Et on voit ici le témoignage de la grâce de Dieu. Malgré la chute du jeune homme, cet homme avait pris un risque en s'asseyant là. Il est tombé jusqu'à en mourir, mais Dieu le ressuscite dans sa grâce. Et ça nous montre, premièrement, que si on est sauvé, on l'est pour toujours. Voilà. On peut tomber vraiment bas, mais on est sauvé pour toujours. Dieu ne rejette pas les siens. Et ça nous montre aussi que malgré la chute et par la grâce, Dieu peut quand même nous relever et nous réintroduire dans le corps. Et c'est intéressant parce que on a lu ensemble, là, et ça c'est la part de chacun, hein. Paul étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras. C'est intéressant ça, hein. C'est, oh lui, franchement, il ne marche pas avec le Seigneur, hein. Et on le boute en touche. Non. Il le prend dans ses bras. Et on prend dans nos bras. On prend soin de ceux qui sont tombés, même qui sont tombés bien bas. On les aide. On prie pour eux. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Et il est probable que Titus avait des séquelles, sans compter que les fractures à cette époque-là, on ne faisait pas grand-chose. On se retrouvait infirme, boiteux. Et là, on gardait la trace, la cicatrice de notre chute. Un jour, il y a un père qui était profondément blessé par son fils, qui n'arrêtait pas de recommencer à faire des choses mauvaises, de désobéir. Et à chaque fois, il disait, je ne le ferai plus. Mais il recommençait et il recommençait. Alors bien sûr, son père et Dieu lui pardonnaient à chaque fois qu'il le demandait. Mais le but, c'est à un moment de s'arrêter et de ne pas recommencer. Alors, il a voulu faire quelque chose pour essayer de le marquer, de lui montrer, de l'illustrer. Il l'a emmené dans la grange et puis il a pris un gros clou, un marteau, et il lui a dit, vas-y, plante ce clou. Alors, il l'a planté dans une des poutres. Et il a dit, tu vois, chaque fois que tu pêches, c'est un peu comme si tu plantes ce clou. Ensuite, il lui a dit, maintenant, retire-le. Il lui a tendu une tenaille. Il a retiré le clou. Et le père a dit, c'est vrai que la confession et le pardon permettent de régler beaucoup. Chaque fois que tu te repens, tu ôtes en quelque sorte le clou. Et après, il lui a dit, maintenant, enlève le trou. Et non, le trou, il est là. On ne peut pas retirer le trou. Et le péché, ça laisse une marque. C'est marqué. C'est même marqué en nous. C'est marqué dans notre mémoire. Et c'est que la grâce qui peut faire que on soit libéré après de ça, du passé. Ça nous marque. Et c'est normal d'être tenté par le mal. C'est normal d'être tenté de pécher, tenté par le monde. Jésus a été tenté. Et c'est normal aussi parce que c'est attractif, c'est séduisant, c'est incontestable. Et on peut dire que les fenêtres sont nombreuses sur le monde qui nous attire. Mais si être tenté est normal, et le fait d'être tenté n'est pas un péché, quand je suis tenté, je ne pêche pas. C'est quand même dangereux de sous-estimer le mal et se dire que finalement, si je reste sur le bord, c'est pas grave, je vais contrôler. Et on peut se dire que de temps en temps, regarder par la fenêtre. On est dans la pièce, dans la chambre haute, dans la lumière, et on voit par la fenêtre. Et puis on se détourne. Et on repasse, on voit, bien sûr, c'est visible, ça nous attire. C'est normal, c'est la vie chrétienne normale, ça, de regarder de temps en temps, parce que c'est devant nous. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de s'installer vraiment sur le bord et de se laisser finalement aller à regarder un peu plus qu'il ne faut. Un peu dans l'Église, un peu dans le monde. J'ai connu un chrétien qui a fait un retour dans le monde après sa conversion. Mais il est tombé, vraiment. Et il est revenu au Seigneur, il s'est repenti. Mais quand il s'est repenti, il avait le sida. Il ne l'avait pas quand il s'était converti. Mais après, il l'avait. Alors, ça faisait une dizaine d'années, mais combien d'années avait-il encore devant lui, je ne sais pas. Est-ce qu'il est encore en vie, je ne sais pas. Et ça veut dire qu'il y a des conséquences. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Eutychus contrôlait bien la situation, en tout cas il le pensait, et puis il a perdu le contrôle. Et j'aimerais juste terminer en disant que ce qui est beau dans cette histoire, c'est aussi la consolation qu'il a reçue de l'Église. Tous étaient profondément accablés de sa chute, mais son retour, on voit, ça a été le sujet d'une grande consolation. C'était un rescapé qui revenait à la vie. Alors c'était une vraie consolation pour tous les enfants de Dieu. Et il faut qu'on prenne dans nos bras, spirituellement, dans nos cœurs, qu'on porte, qu'on garde, qu'on aide finalement à se relever, à revenir à la vie, qu'on prie les uns pour les autres. On marche ensemble.